VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 14 décembre 2023. Au Sénégal, la justice ordonne la réintégration sur les listes électorales de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko. Référendum constitutionnel dimanche au Tchad pour une fin du régime militaire en 2024. Présidentielle en RDC, la campagne bat son plein à Goma dans l'est du pays à 6 jours du scrutin.
Les moyens ont été reçus, ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Israël accueille un émissaire américain et poursuit ses frappes à Gaza. Vladimir Poutine promet une Russie victorieuse en Ukraine, une semaine après avoir annoncé son intention de rester au Kremlin. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Direction le Sénégal, où l'opposant Ousmane Sonko peut démarrer la collecte des parrainages en vue de la présidentielle de février prochain. Le tribunal haut classe de Dakar a confirmé ce jeudi un jugement annulant sa radiation des listes électorales. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
Ousmane Sonko va donc réintégrer les listes électorales. Le tribunal hors classe de Dakar, qui a hérité du dossier, a décidé ce jeudi de rétablir le leader de l'ex-parti PASTEF dans ses droits. La Cour confirme ainsi un jugement rendu en octobre ordonnant l'annulation de la radiation de l'opposant sénégalais. Mais le verdict du juge du tribunal de Ziguinchor, ville du sud du Sénégal dont Ousmane Sonko est le maire, a été cassé le 17 novembre dernier par la Cour suprême, qui a ainsi transmis le dossier au tribunal hors classe de Dakar. C'est un nouveau rebondissement dans la saga judiciaire de l'opposant actuellement en prison. Cette nouvelle décision relance sa candidature pour la présidentielle du 25 février prochain. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour recueillir les parrainages et déposer sa candidature. Mais la partie est loin d'être terminée, préviennent les avocats de l'État, qui annoncent déjà un pourvoi en cassation. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
Plus de 8,3 millions de Tchadiens sur une population de 18 millions sont invités à se prononcer dimanche par référendum sur une nouvelle constitution. C'est une étape importante vers des élections en 2024. Nani Talani.
La nouvelle constitution proposée n'est pas très éloignée de la précédente, qui concentrait déjà d'importants pouvoirs dans les mains du chef de l'État. Le premier ministre Salé Kebzabo, à la tête de la coalition pour le oui, encourage à proposer les valeurs d'un État unitaire fortement décentralisé en votant oui. Il assure que sa coalition s'est mise en ordre de bataille pour aller convaincre tous les citoyens tchadiens de l'importance de ce projet de constitution qui consacre l'État unitaire fortement décentralisé où justice et égalité seront la boussole de la bonne gouvernance. Les partisans d'un État fédéral, pour leur part, invitent les électeurs à rejeter ce texte en votant non. Quant aux deux principales plateformes de partis hostiles à la junte, elles appellent au boycott. Elles accusent le général Mahamat Déby-Itno de perpétuer une dynastie Déby. À 37 ans, Mahamat Déby a été proclamé par l'armée le 20 avril 2021 président de transition à la mort de son père, Idriss Déby-Itno, tué au front.
L'ONG Reporters sans frontières a demandé aujourd'hui aux autorités guinéennes de mettre un terme à la série de mesures de restriction prises à l'encontre de certains médias privés dénonçant des atteintes à la liberté de presse. Diverses associations de presse avaient appelé lundi à une journée sans presse, disant la profession menacée d'extinction. RSF exige des réponses claires de la part des autorités guinéennes et qu'elles mettent tout en œuvre pour rétablir l'accès aux médias censurés et aux réseaux sociaux censurés également. Dans le centre du Mali, une attaque imputée aux djihadistes a fait de nombreux morts cette semaine dans le centre du pays. Des interlocuteurs locaux parlant même ce jeudi de dizaines de soldats maliens et de civils tués. Un élu local a indiqué que l'attaque djihadiste contre Farabougou a fait une soixantaine de militaires et civils tués. L'armée a reconnu aujourd'hui qu'une attaque a eu lieu et qu'elle a livré une riposte vigoureuse qui a permis de repousser une attaque terroriste visant le camp de Farabougou. La Tanzanie a annoncé aujourd'hui la mort de son deuxième et dernier ressortissant, Joshua Mollel, disparu depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, un étudiant de 21 ans. En novembre, les autorités tanzaniennes ont annoncé la mort du premier Clémence Félix Ntenga, âgé lui de 22 ans, sans préciser les circonstances de sa mort.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors de l'Afrique, la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 69e jour. Israël reçoit aujourd'hui le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, qui a répété la demande des États-Unis de mieux protéger les civils dans la bande de Gaza. Nathalie Barge.
Jack Sullivan va rester à Jérusalem jusqu'à vendredi pour des entretiens avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, il devrait évoquer le besoin de mener des frappes plus précises afin de réduire les pertes civiles. Le secrétaire à la défense Lloyd Austin est également attendu sous peu en Israël, tandis que la chef de la diplomatie française Catherine Colonna doit se rendre au Liban samedi et en Israël dimanche. L'armée israélienne a indiqué avoir mené ce jeudi des interventions ciblées sur plusieurs sites aux alentours de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Elle dit avoir trouvé un arsenal et détruit deux descentes dans des tunnels. Pendant la nuit, de violents affrontements ont eu lieu autour de Deir al-Bala. Le Premier ministre israélien a déclaré hier soir que rien n'arrêtera Israël dans la guerre contre le Hamas, ni la mort de soldats, ni les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié ce jeudi de catastrophique la situation dans la bande de Gaza, estimant qu'elle ne pouvait être comparée à celle en Ukraine. Selon l'armée israélienne, le Hamas détient encore 135 otages à Gaza, dont certains sont morts. Une centaine de personnes ont été libérées dans le cadre d'une trêve fin novembre en échange de 240 prisonniers palestiniens.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui a rencontré aujourd'hui donc M. Sullivan, a prévenu que la guerre à Gaza durerait plus que quelques mois. Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Cela prendra du temps, plus que quelques mois, mais nous vaincrons et nous détruirons, le Hamas a déclaré M. Gallant. Quatre hommes liés au Hamas palestinien soupçonnés de préparer des attentats contre des institutions juives en Europe ont été arrêtés en Allemagne et aux Pays-Bas, a annoncé aujourd'hui le parquet fédéral allemand. Les quatre suspects sont un ressortissant néerlandais arrêté par la police néerlandaise à Rotterdam, ainsi que deux Libanais et un Égyptien qui ont été interpellés à Berlin. Vladimir Poutine s'est exprimé aujourd'hui. Selon la télévision russe, plus de 2 millions de questions du public et des médias ont été envoyées au président russe, couvrant l'Ukraine, mais aussi des problèmes de vie quotidienne. Le point avec Alexandrine Oulunion.
Vladimir Poutine a répété que la Russie va poursuivre sa guerre en Ukraine tant que Kiev n'aura pas accepté un accord tenant compte des préoccupations sécuritaires de Moscou. Selon lui, les objectifs de la Russie n'ont pas changé. Chasser le pouvoir actuel qu'il qualifie de nazi, détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental pour lui imposer la neutralité. Il a révélé pour la première fois que 617 000 soldats russes sont en Ukraine, une force considérable occupant plus de 17% du territoire ukrainien. Il n'a pas dit un seul mot sur les pertes de son armée. M. Poutine a dit voir des signes d'essoufflement de l'aide occidentale à l'Ukraine, mais dit ne pas s'attendre à ce que cette aide s'arrête sur le champ. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté jeudi les dirigeants européens réunis à Bruxelles à permettre l'ouverture de négociations d'adhésion avec son pays, ce qui ne fait toujours pas l'unanimité des 27 pays membres de l'Union européenne.
Les dirigeants de l'Union européenne ont entamé aujourd'hui un sommet pour l'Ukraine en écoutant un nouveau plaidoyer du président Volodymyr Zelensky en faveur d'un soutien politique et financier à son pays, mais il se heurte à l'inflexibilité de la Hongrie. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a répété avant l'ouverture du sommet qu'il n'entendait céder ni sur l'ouverture rapide de négociations d'adhésion de l'Ukraine au bloc européen, ni sur le déblocage de 50 milliards d'euros d'aide financière prélevée sur le budget de l'Union européenne. La Chine a annoncé, elle, ce jeudi, avoir, grâce à sa médiation, obtenu un cessez-le-feu dans les affrontements entre les soldats birmans et plusieurs groupes armés issus de minorités ethniques dans le nord de la Birmanie, à proximité de sa frontière. Des combats y font rage depuis que, fin octobre, trois de ces groupes ont déclenché une offensive commune contre le pouvoir militaire central. Cette offensive, selon les analystes, constitue le plus grand défi militaire lancé à la junte. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Rosine Monizero.
La forte hausse du prix des fèves de cacao a dopé les revenus des agriculteurs camerounais alors que les principaux producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana, souffrent d'une pénurie d'approvisionnement cette saison. Plusieurs agriculteurs ont déclaré à Reuters qu'ils vendent leur cacao jusqu'à 2200 francs CFA le kilogramme contre 750 et 1990 francs CFA la saison dernière. Au Mozambique, les législateurs ont soutenu mercredi la création d'un fonds souverain que le gouvernement souhaite utiliser pour exploiter les recettes des exportations de son gaz naturel liquéfié et faire plus de 6 milliards de dollars par an des exportations gazières à l'horizon 2040. Maputo a commencé à exporter du GNL l'an dernier avec des projets des sociétés internationales telles qu'Eni et Total Energy. Les pays en développement ont dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour assurer le service de leur dette extérieure publique et garantie par l'État en 2022, soit plus de 5% par rapport à l'année précédente, affirme la Banque mondiale. Ces dépenses ont drainé les fonds destinés aux besoins critiques en matière de santé, d'éducation et de climat et exposent les pays les plus pauvres au risque croissant de sombrer dans une crise de la dette, alerte la Banque.
Place maintenant au sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La FIFA a dévoilé hier les trois finalistes pour son prix du meilleur joueur masculin 2023 qui sera connu lors d'une cérémonie à Londres le 15 janvier 2024.
En lice, il y a l'Argentin de 36 ans Lionel Messi, le Français de 24 ans Kylian Mbappé et le Norvégien de 23 ans Erling Haaland, sélectionnés sur 12 joueurs. Erling est parmi ceux qui ont contribué au premier triplé du club qui a remporté l'UEFA Champions League, la Premier League et la FA Cup. Il a aussi été nommé le soulier d'or européen, le soulier d'or de la Premier League anglaise, joueur de la Premier League anglaise et jeune joueur de la saison. Le Français Kylian Mbappé a permis au PSG de remporter son 8e titre national, trouvant le chemin des filets 17 fois lors des 20 derniers matchs de championnat. C'est aussi le meilleur joueur et buteur de l'année en Ligue 1. Mbappé n'est qu'à 4 buts du meilleur buteur de tous les temps en Coupe du Monde de la FIFA. Quant à Lionel Messi, le meilleur joueur masculin en 2022, il a mené l'Argentine à la gloire au Qatar et aidé le PSG à remporter sa dernière couronne de Ligue 1.
On connaît aussi les trois finalistes du prix du meilleur entraîneur masculin FIFA 2023, le coach du Nigérian Victor Osimhen, Luciano Spalletti, fait partie des nominés.
Les Italiens Luciano Spalletti et Simone Inzaghi, ainsi que l'Espagnol Pep Guardiola, ont été sélectionnés par un jury international. Pep Guardiola est le premier coach à remporter deux triplés de trophées dans le championnat national, la principale coupe nationale et l'UEFA Champions League. En plus, il avait remporté 16 matchs consécutifs avec Barcelone, 19 matchs consécutifs inégalés avec le Bayern Munich en 2013-2014 et 18 victoires consécutives avec Manchester City en 2017-2018. Simone Inzaghi a mené l'Inter Milan à une première finale de Ligue des Champions depuis 13 ans en juin dernier. Et puis, Luciano Spalletti a permis à Naples de remporter son premier titre en trop 3 ans. Inzaghi a constitué une excellente équipe dont l'une des têtes d'affiche était le Nigérian Victor Osimhen qui vient d'être élu meilleur joueur africain de 2023.
À propos de Victor Osimhen, il va prolonger son contrat avec Naples.
Effectivement, Victor Osimhen, qui est d'ailleurs le joueur africain de l'année 2023 et l'attaquant le plus recherché l'été dernier, continue de susciter l'intérêt. Mais Naples veut garder son joyau. Selon Sky Sport, le Nigérian de 24 ans, lié à Naples jusqu'en juin 2025, a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le club italien jusqu'en 2026. Sa clause libératoire devrait se lever à 130 millions d'euros.
Page des sports VO Afrique, signée Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire d'Ousmane Sonko. Le tribunal hors classe de Dakar relance la candidature de l'opposant à la présidentielle de février prochain. La Cour a confirmé l'annulation de sa radiation des listes électorales. Suivez cet élément de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson Sambou.
Je ne vais pas cacher ma satisfaction, qui est celle de tous les Sénégalais, en tout cas d'une écrasante majorité des Sénégalais.
La joie des avocats d'Ousmane Sonko en dit long sur l'effet surprise du verdict. Après la frustration de la Cour suprême, ils ont vu ce jeudi le tribunal hors classe de Dakar confirmer l'annulation de la radiation de l'opposant sénégalais prononcée par un jugement d'octobre. Maître Cyril Lederly savoure.
Ce que nous pouvons retenir, c'est que le droit a été dit. Le droit a été confirmé. La Cour suprême aurait dû rendre cette décision depuis très longtemps. Elle a préféré refiler le bébé avec l'eau du bébé. Maintenant, le bébé a été encore bien lavé et c'est la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales.
Du côté des partisans d'Ousmane Sonko, c'est aussi le grand soulagement.
D'abord, c'est une surprise et en même temps, je suis content. Les patriotes, ils se sont déjà remobilisés parce qu'on était dans les parrainages avec le candidat Bassirou Diomaye Faye. On a remobilisé. D'ici peu de temps, vous allez entendre qu'on a des millions de parrains. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de parrainer le candidat Ousmane Sonko avec le parrainage de Julie et on passe à autre chose.
Chez les avocats de l'État, en revanche, l'onde de choc a été grande. Mais ils ont tenté de minimiser ce verdict rendu. Maître Elajou prévient déjà que la bataille est loin de son épilogue.
Moi, j'ai envie de rire quand face à l'inintelligence et à la perte de mémoire, on jubile aujourd'hui comme on avait jubilé à Zégeshor, oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le juge inférieur définit le juge supérieur, sa décision est toujours annulée. On va faire un pouvoir en cassation comme on l'avait fait à Zégeshor.
En attendant, Ousmane Sonko et ses partisans jubilent. L'opposant actuellement en prison peut donc lancer sa campagne de collecte des parrainages. Il a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Togo, le cadre permanent de la concertation nationale des acteurs politiques qui regroupe le parti au pouvoir et certaines formations de l'opposition fait des propositions pour l'amélioration du cadre électoral avant les élections législatives et régionales prévues au premier trimestre de 2024. Le découpage, le fichier et le renouvellement des institutions sont au centre des discussions ouvertes cette semaine dans la capitale de Lomé, la correspondance de Kossi Wosou.
Le découpage électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est le premier sujet discuté par les participants aux travaux du cadre permanent de concertation CPC. Les propositions n'ont pas manqué. Maître Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, propose un découpage en lien avec les communes.
Je crois que nous sommes allés sur une proposition que notre alliance a faite, sur revenir, élargir le nombre de députés à l'Assemblée nationale sur la base de ce que nous avons comme communes. On a 117 communes. Il faut aller sur cette base-là, de sorte qu'il y ait au moins un député par commune pour que la représentation du pays soit équitable.
Si un consensus semble se dégager sur ce sujet, Kwame Manti de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, souhaite s'en tenir aux dispositions constitutionnelles.
Nous sommes heureux que cette question ait retenu l'attention du CPC et qu'on a accepté d'en parler en espérant que ce problème va être réglé en tenant compte du principal critère qui est la démographie. Il ne serait pas bien qu'un homme important de la population désigne peu de députés alors qu'un nombre moindre désigne plus de députés étant tous des citoyens. Évidemment, il y a d'autres critères qui peuvent entrer en jeu, mais celui que la Constitution nous recommande est la démographie. Nous y veillerons pour que ça soit bien fait.
Pour Paco Madjourouvi, l'actuel président du CPC, le critère démographique à lui seul ne saurait suffire pour le découpage électoral.
Je dois dire que des propositions ont été faites. pour plus de représentation de tous les territoires de notre pays, mais pas que sur la base de la démographie. Nous nous ajoutons qu'à côté de la démographie, il y a aussi l'éthique, il y a la solidarité entre les territoires et que tous ces éléments doivent être pris en compte pour arriver à quelque chose d'acceptable pour nous tous.
Achole Akleso, le secrétaire exécutif du parti au pouvoir Union pour la République Unir, précise tout de même que c'est le gouvernement qui détient le dernier mot sur ce genre de questions.
Le découpage n'est pas de la compétence ou des prérogatives du CPC. Ce que nous faisons au CPC, ce ne sont que des propositions au gouvernement. Nous formulons le vœu que ça soit pris en compte, mais rien ne contraint le gouvernement à transcrire exactement ce que nous avons retenu. Mais ce qui est important à souligner aussi, c'est que le chef de l'État était toujours attentif à toutes les propositions qui ont été faites par le CPC.
Les travaux du CPC vont se poursuivre sur d'autres sujets comme le fichier électoral et le renouvellement des institutions de la République. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
À 6 jours exacts de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la tension monte dans la province du Nord Kivu. Les candidats à différents niveaux se mobilisent dans la ville de Goma pendant que la société civile reste dubitative quant à la tenue de ces scrutins malgré les assurances de la CENI. Reportage de Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Débutée timidement, la campagne se poursuit, tambour battant à Goma en cette dernière semaine. Les différents candidats aux législatives nationales, provinciales et aux municipales sillonnent les rues de la ville avec des caravanes motorisées pour solliciter les votes des habitants au moment où la coordination provinciale de la société civile, chapeautée par John Banyene, doute de la tenue du scrutin car selon lui, jusque-là, aucun matériel n'est déployé dans des centres de vote. John Banyene, société civile.
Il y a toujours la campagne qui continue, mais quand on analyse un peu, quand on demande les agents surtout de la CENI, pour ce qui concerne le déploiement de matériels électoraux, nous croyons qu'il y a un souci à ce niveau. Mais nous, comme population, bon, nous sommes prêts d'aller aux élections malgré les frustrations qu'il y a de la guerre, mais avec beaucoup de doutes jusque-là, voilà que nous sommes à 7 jours prêts, mais on ne sait pas si les élections auront lieu ou pas.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, reconnaît la persistance de certaines difficultés financières à quelques jours des élections, rassure de la détermination de son institution à respecter les obligations constitutionnelles. Denis Kadima, président de la CENI.
Les moyens ont été reçus, ce n'est pas la totalité, mais avec ce que nous avons, nous pouvons très bien avancer. Je sais ce que sont nos besoins, je sais comment nous allons nous y prendre. Et n'oubliez pas que l'une des choses que nous voulons aussi réaliser, c'est habituer les Congolais à respecter les dates telles que prévues dans la Constitution. Et s'il y a une structure qui doit aider à ça, c'est d'abord la CENI.
L'une des difficultés majeures, c'est les transports de matériel de vote dans tous les coins du pays, une charge que la mission des Nations Unies en RDC, Monisco, à travers sa chef Bintou Keïta, a promis faire sienne. Bintou Keïta, patronne de la Monisco.
Pour soutenir la préparation des élections générales qui seront à la fois présidentielles, législatives au niveau national et provincial et aussi locales pour la première fois dans le pays, ce que je trouve absolument fantastique. Toute la mission est mobilisée pour aider au déploiement de matériel, équipement pour le jour du scrutin, donc le 20 décembre, mais aussi surtout, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'avoir une harmonisation des messages qui doivent être passés et une attention particulière en ce qui concerne le caractère apaisé des élections.
Ces élections vont se dérouler dans un contexte particulier pour la province du Nord Kivu, qui reste sous état de siège et dont les territoires de Rutshuru et Masisi sont en partie occupés par les rebelles du M23 et ne pourront pas voter. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Ici à Washington, la Chambre des représentants à majorité républicaine a voté hier soir en faveur d'une enquête pour la mise en accusation formelle du président américain Joe Biden par 221 voix contre 212 en raison de son implication présumée dans les relations commerciales de son fils. La Maison-Blanche nie tout acte répréhensible de la part du président. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson, correspondante de la Voix de l'Amérique au Congrès.
Les républicains ont déclaré que le vote marque une étape importante dans leur enquête de plusieurs mois sur l'implication de Joe Biden dans les relations commerciales à l'étranger de son fils Hunter Biden. Jim Jordan, président de la commission judiciaire de la Chambre.
C'est une histoire vieille comme le monde. Vous avez un homme politique qui fait certaines choses, ses actions, qui profite ensuite financièrement à sa famille, et puis on s'efforce de le cacher.
Cette nouvelle étape donne plus de pouvoir aux républicains pour obtenir des documents pour l'enquête. James Comer, président de la commission de surveillance de la Chambre.
Il est très clair que la Maison-Blanche fait obstacle à notre enquête. Je pense que le message d'aujourd'hui est très fort et clair. Nous attendons d'eux qu'ils s'y conforment.
La Maison-Blanche a déclaré avoir déjà accédé aux demandes des républicains. Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Ils ont obtenu 100 000 pages de documents. Ils ont interrogé des témoins pendant 40 heures. De tout ce qu'ils ont demandé, au lieu de faire le travail du peuple, toutes leurs fausses allégations ont été réfutées inlassablement.
Hunter Biden, qui a refusé de témoigner à huis clos, a affirmé ne jamais avoir bénéficié des relations politiques de son père.
Au pire de ma dépendance, j'étais irresponsable financièrement. Mais suggérer que c'est un motif pour une enquête de destitution est absurde.
Les démocrates de la Chambre estiment que cette affaire est politiquement motivée à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Écoutons le député démocrate Robert Garcia.
La majorité fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Donald Trump soit réélu. Et nous savons tous ce qu'il dirige ce processus.
Le président de la Chambre, Mike Johnson, pourrait être réticent à procéder à un vote pour la mise en accusation de Joe Biden. Les républicains disposent d'une faible majorité. Et une telle décision pourrait poser un risque politique pour les circonscriptions divisées à l'approche des élections.
Les fêtes de Noël. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Instagram, YouTube et le réseau X pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.